RCF.
Le temps de le dire, Antoine Bélier.
Bonjour à tous, au lendemain du 2 février, journée mondiale de la vie consacrée, je vous propose que nous nous arrêtions ce matin sur cette vocation particulière qui entraîne des hommes et des femmes à choisir le célibat afin de vivre les exigences de l'évangile au cœur du monde, fermant dans la pâte de la société, celle de la terre. Cette vocation spécifique liée à celle du baptême, commune à tous les chrétiens, est aussi et en même temps un signe lumineux censé éclairer ceux et celles qui parmi nos contemporains ont parfois du mal à se frayer un chemin d'espérance, vivre l'évangile jusqu'au bout, l'annoncer à temps et à contre-temps, être témoin des tristesses mais aussi des joies du monde. C'est ce vers quoi tendent les laïcs consacrés. Ce ne sont pas des héros, mais avant tout des hommes et des femmes saisis par l'amour du Christ, appelés et envoyés pour répandre cet amour largement et rappeler que chacun, chacune, quel qu'il soit, en est le destinataire.
Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF.
Le laïc a consacré une vocation prophétique pour l'Église et pour le monde. C'est le thème de cette émission jusqu'à 10h avec mes trois invités que je vous présente sans plus tarder. Père Gilles-François, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Créteil, formateur au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Vous êtes le postulateur de la cause de béatification de Madeleine d'Elbrel. Madeleine d'Elbrel sur laquelle vous avez écrit plusieurs ouvrages. Et vous êtes avec d'autres l'initiateur d'un groupe de baptisés qui réfléchit à l'engagement au laïc a consacré à la suite.
Oui, c'est ça.
À l'exemple de Madeleine d'Elbrel.
Oui, en effet.
Oui. Dites-nous-en peut-être un mot pour commencer.
Oui, c'est un groupe qui a démarré il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, qu'on avait ouvert hommes et femmes. C'est surtout des femmes qui sont venues, qui sont assez dispersées géographiquement et aussi professionnellement, qui sont toutes plutôt insérées professionnellement déjà. Et qui sont aussi insérés ecclésialement, voilà, c'est des gens plutôt déjà insérés et qui pour qui ce choix d'une vie consacrée apparaît de plus en plus fortement. Elles ont entre 27 et 70 ans. C'est pour dire
donc
que la
force est
large. Il y a un écart d'âge important, mais il y a une bonne tranche. Disons, il y a quand même un nombre très important de trentenaires.
On pourra en reparler, voilà, bien sûr, dans cette émission jusqu'à 10h. Jérôme Cuquel est avec nous également. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes engagé depuis 20 ans comme laïc consacré au sein du mouvement des Focolari. Alors, ce mouvement, je le rappelle, a été fondé en 1943, si mes informations sont exactes, en Italie, par Chiara Lubich. Et les Focolari sont présents sur de nombreux terrains de la société civile. Son objectif est de contribuer à réaliser cette prière de Jésus à son Père, que tous soient un. Vous n'avez rien d'autre à rajouter ?
Vous avez tout dit.
Mylène Ménard, bonjour.
Bonjour Antoine.
Vous êtes laïque consacrée au sein de la communauté de l'Emmanuel, responsable pour la France de la vie consacrée féminine. La communauté de l'Emmanuel, c'est une association de fidèles,
oui,
fondée en 1972 et dont sont membres également des prêtres et puis aussi des personnes mariées. Comment on pourrait résumer la spiritualité de la communauté de l'Emmanuel ?
Alors, la spiritualité de l'Emmanuel se base sur l'expérience de l'effusion de l'esprit que tous les membres ont fait et ça a transformé notre vie. Et puis, nous vivons ensemble la communion des états de vie. Comme vous l'avez dit, il y a des prêtres, des laïcs non consacrés et des laïcs consacrés.
Mais alors, pas forcément sous le même toit, c'est-à-dire que chacun garde son habitat.
Voilà, les familles dans leur habitat, les célibataires non consacrés aussi, ou alors ils peuvent vivre ensemble en maisonnée. Et sinon, les laïcs consacrés et les prêtres, en général, habitant en petite fraternité.
Comme chaque jour, venez témoigner en direct à l'antenne, partager vos réactions ou questions sur cette vocation spécifique des laïcs consacrés en nous appelant au 04 72 38 20 23 ou en nous écrivant le temps de le dire @rcf.fr.
Vos questions, commentaires et témoignages au 04 72 38 20 23.
Alors comment on se découvre une vocation de laïc consacré ? Père Gilles-François, vous qui accompagnez ces hommes, ces femmes à la suite de Madeleine d'Elbrel qui cherchent à répondre à l'appel du Christ dans cette vocation, quels sont les critères finalement pour se dire tiens, là, je peux m'appuyer sur ce critère-là pour me dire que je suis bien appelé à la vie consacrée ?
Je crois que le critère, c'est un désir d'appartenir au Christ et d'être pris par lui, d'être embarqué par lui en plein monde. En plein monde, bon, ça fait un petit peu slogan dit comme ça, mais c'est la prière de Jésus. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Et Madeleine a cette phrase dès le début, dès 1938, dès le début de son intuition, d'être dans le monde, ce qui veut dire concrètement d'aimer son prochain. Donc, il y a ce lien très intime, très fort entre les deux commandements, aimer Dieu, aimer son prochain.
Mais pour revenir d'un mot à la vocation de Madeleine Delbrel, il me semble que ça n'a pas été immédiat pour elle. Elle a dû cheminer. Oh, à un moment donné, elle se disait, bon, je vais peut-être me marier. Et puis, il y a eu aussi, je crois, le Carmel, l'attrait pour le Carmel, à un moment donné aussi.
Oui. Pratiquement, dès qu'elle s'est convertie, elle a été saisie par le Christ qui est dans ce désir d'être totalement à lui. Hein. Par contre, oui, il y a eu l'idée du Carmel, quoi. Hein, et puis bah, les circonstances de la vie, enfin, en particulier le fait qu'elle avait ses parents à charge, fait qu'au début, c'est dans le monde, et puis elle reçoit, elle comprend qu'elle a à servir dans le monde, hein, et puis peu à peu aussi, elle découvre que l'église dans le monde, ce sont les églises diocésaines, c'est donc le projet de partir à Ivry qui va mettre effectivement 9 ans à se formuler, presque 10, hein, entre sa conversion et puis le départ en mission, presque 10 ans, c'est appuyé sur l'archevêque de Paris, quoi.
Oui, alors on reviendra sur le parcours de Madeleine Delbrel. Jérôme Cuquel, pour ce qui vous concerne, comment vous avez découvert votre vocation? Est-ce que ça a été le fruit d'un long processus, d'un long cheminement, ou c'était quelque chose, j'allais dire, d'immédiat?
Non, mais je pense que c'est le fruit, effectivement, de d'abord plusieurs non, parce que je crois qu'on n'arrive pas tout de suite à dire oui à Dieu, parce que je crois que ça fait peur. Donc, effectivement, quand on en prend conscience, puis je sais pas, en tout cas pour moi, je pensais que ma vie pouvait pas se faire en dehors d'une vie de famille, une vie de couple. Donc en fait, effectivement, le fait de rencontrer Dieu, de comprendre que petit à petit, il prend de la place, qu'il devient un ami, qu'il devient son meilleur ami, et puis que petit à petit, il grignote une place que au départ, on n'aurait pas forcément voulu lui donner. Et puis qu'après, effectivement, je crois qu'il y a une étape importante qui est de se dire, moi, je suis prêt à suivre Dieu, quel que soit le chemin qu'il m'indique. Et je crois que c'est à partir de là qu'on acquiert une liberté qui fait qu'effectivement, on se rend compte que toutes les vocations sont belles et que l'important, c'est de comprendre la sienne, celle à travers laquelle, on va pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Mmh. Et puis effectivement, on le découvre à un certain moment de son parcours. Pas tellement quelque chose qu'on doit devenir, mais quelque chose qu'on est déjà. Et que pour laquelle Dieu nous a créés, et on sent que c'est là qu'on va pouvoir porter du fruit tel que Dieu le souhaite.
Mylène Ménard, pour ce qui vous concerne, comment vous avez découvert votre vocation propre?
Alors d'abord, j'ai vécu une expérience forte, comme je vous ai dit, l'effusion de l'esprit, où en fait j'ai compris que Dieu m'aimait complètement, et du coup j'ai revu toute ma vie et j'ai changé de vie, et du coup j'ai découvert par un groupe de prière de la communauté de l'Emmanuel la beauté du mariage chrétien, en fait, et je me disais, c'était la vocation que je connaissais de par mes parents. Et puis aussi j'ai vu qu'il y avait des consacrés dans les manuels, et je me suis dit, mais ça aussi c'est génial, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi, parce que je ne savais pas. Entre les deux, mon cœur balançait, et j'ai fait une retraite de Saint-Ignace pendant laquelle je n'ai pas discerné pour ma vocation, j'ai discerné par rapport à mon travail, et en fait je suis tombée amoureuse de Jésus pendant cette retraite. Et du coup, je lui ai dit oui. Je dis, mais oui, je veux te donner toute ma vie. Parce que de toute façon, dans le mariage chrétien ou dans la vie consacrée, c'était le suivre complètement. Et là, je répondais à son appel. Et tomber amoureux, ça peut ne pas durer, hein. Donc, après, il faut prendre les moyens. Et pour garder son oui, pour continuer à dire oui chaque jour. Mmh. Et donc c'est vraiment, par ce cœur à cœur, cette rencontre forte d'amour que j'ai eue avec le Christ.
Alors, on pourrait effectivement parler d'un mot sur cette parenté entre les différents états de vie, Père Gilles François, mais ce qui fait le point commun, je le disais en introduction, c'est le baptême, en fait. Les vocations spécifiques s'enracinent dans cette spiritualité, dans ce fondement unique qu'est le baptême.
Oui, en effet. Et puis, alors, vraiment, moi, ce qui me réjouit, en tout cas, en tant que postulateur de Madeleine Delbrel, mais en tant que prêtre diocésain, c'est d'abord la vitalité du baptême. C'est ça qui est premier. Et dans l'itinéraire d'une Madeleine Delbrel, sa notoriété, sa réputation de sainteté aujourd'hui, ce qui marque, c'est que quantité de gens s'intéressent à elle, sont nourris par elle, et pour autant, ne sont pas liés à à ce qu'elle a fait, elle qui a vécu effectivement, qui a assez vite orienté sa vie vers un don total à Dieu dans le célibat, la pauvreté, l'obéissance. Hein. Mais de fait, ce qui est premier chez elle, hein, c'est le baptême. Elle d'ailleurs, elle le redira en disant, mais ce qu'il faut, c'est d'obéir aux circonstances de la vie, à ce que le Seigneur va nous demander au long de la vie, et donc elle ne voudra pas tellement d'autres formes que le baptême.
Oui, mais
elle
ne
va pas vouloir
manière...
instituer quelque chose. Elle ne fondera pas un institut séculier.
Oui. Hein, bon. Elle a anticipé le Concile Vatican II d'une certaine manière, non ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'appel de tous les baptisés à la sainteté. Mmh. Et alors n'arrive qu'après, finalement, vous voyez, ce petit groupe de femmes dont je vous parlais, elles sont une vingtaine, mais je suis content que ça arrive après, parce que ce qui est premier, c'est la réputation de Madeleine, c'est l'appel à vivre la sainteté dans la vie de tous les jours, c'est ça que les gens entendent.
Qu'est-ce que vous diriez là-dessus, Jérôme Kugel, sur cet appel universel à la sainteté lié à ce fondement du baptême ?
Oui, ben, je pense que cet appel de Dieu, en fait, il n'est pas univoque. Non, il prend différentes formes. Moi, j'aime bien le comparer comme le couteau suisse de la vie chrétienne. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas que, on a une richesse qui est incroyable. Et je trouve que, voilà, dans ce couteau suisse, il y a à la fois la fourchette, il y a le tire-bouchon, il y a la lime. Voilà, et il me semble que l'Église peut, voilà, faire appel. Dieu a donné tous les outils pour que la vie des chrétiens impliqué dans notre monde, voilà, qui évolue, qui bouge, y a toujours l'outil qui est adapté pour aller chercher, porter son témoignage là où voilà, le monde l'attend ou ne l'attend pas.
Il y a une vraie richesse du baptême à redécouvrir. Vous l'avez redécouverte, cette richesse, Mylène Ménard ?
Oui, parce que en fait, quand j'ai fait cette expérience forte de la présence de Dieu dans ma vie, en fait, je me suis dit. Enfin, c'était naturel, c'était pour pouvoir aussi le transmettre. Voilà, je recevais et je voulais transmettre. Et dans ma vie de laïque consacrée, je rencontre des personnes. Alors maintenant, là, j'ai une mission particulière. Où, voilà. Mais avant, je suis infirmière et mes collègues n'iraient jamais dans une église. Mais voilà, elles avaient l'occasion de me rencontrer parce que j'étais là et elles savaient qui j'étais. Et je pouvais avoir certaines discussions avec elles. Ou alors leur parler de choses très profondes avec elles, voilà, et elles n'auraient pas eu l'occasion si je n'avais pas été là.
Le baptême fait de nous des témoins, Gilles François. Comment Madeleine Delbrel a vécu cette dimension-là, ou en tout cas a redécouvert que au cœur de cette spiritualité du baptême il y avait la mission. Ça vous laisse stoïque.
Les deux vont ensemble, c'est-à-dire oui, il y a un seul mouvement. On voudrait peut-être artificiellement en faire deux, l'union au Christ d'un côté, le baptême, et puis la mission de l'autre. Mais non, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il y a un unique mouvement et qui est peut-être encore plus sensible aujourd'hui qu'on est. Bah, dans le monde, avec beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens ou toute autre chose ou qui connaissent pas, etc. Et de fait, comme vient de dire Mylène, j'entends très très bien ça, quoi, bah que chaque chrétien devient un lieu public pour Dieu. Et Madeleine va insister énormément sur le fait que nous sommes publiquement connus comme chrétiens. Assez vite, les gens s'interrogent, mais cette femme-là, cette infirmière-là, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle travaille comme ça, quoi ? Hein ? Donc il y a une notoriété, enfin une notoriété, non, le fait que nous sommes publiquement connus comme chrétiens.
D'où une responsabilité.
Madeleine, à un moment donné, dit, mais il faut le dire, quoi. Mmh. Voilà.
Donc c'est pas simplement le levain dans la pâte, comme je le disais en introduction, il y a les deux. Il y a le sel de la terre, le levain dans la pâte, et puis la lumière du monde.
Oui, tu dis pourquoi tu le fais. Et en particulier, alors évidemment, si tu es engagé dans le célibat, ben, tu dis pourquoi tu es engagé dans le célibat.
Ouais, c'est
que c'est à cause de Dieu, ouais. Et à cause de vous, les hommes, par amour pour vous.
Allez, on va poursuivre notre discussion dans quelques instants sur RCF. Restez avec nous et puis n'hésitez pas à intervenir. Catherine attend dès maintenant vos appels au standard de l'émission. À tout de suite. Guide us to thy, guide us to thy, guide us to thy perfect life. We three came.
guess we traveled so far. Field and fountain, moor and mountain fall away. Yonder star, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy, guide us to thy, guide us to thy perfect light. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again. King forever, ceasing never over us, all to
We Three Kings, c'était le groupe Hillsong sur RCF.
Jusqu'à 10h, prenons le temps de le dire sur RCF.
Avec le père Gilles François du diocèse de Créteil, Jérôme Cuquel du mouvement des Focolari et Mylène Ménard de la communauté de l'Emmanuel, nous parlons de la vocation des laïcs consacrés, une manière de vivre son baptême afin de témoigner dans ses activités ordinaires de l'inédit de l'Évangile. Marianne de Champagnole est avec nous. Bonjour Marianne.
Bonjour messieurs.
Nous vous écoutons.
Bonjour.
Il y a peut-être une dame.
Oui.
Oui.
Il y a une dame, effectivement, elle s'appelle Mylène.
Oui, encore assez bonne. Eh bien oui, je suis contente du sujet de ce jour, car vraiment, il est formidable et ça me concerne. Je suis laïque consacrée depuis le 1er mai 1997. Et ma vie de laïque consacrée n'est pas des bien portantes, puisque pour moi, je traverse des épisodes de maladie. Donc, dernièrement, où j'ai su que je devais laisser tomber la télévision et que je ne regardais pas beaucoup, mais enfin. Alors, je suis aveugle sans y être. Alors, à vous de comprendre ce que ça veut dire. Mais parmi tout ce que je traverse, pour moi, ma vie consacrée, elle est dans une barque où ça chavire de droite et de gauche, mais je me dis, crains rien. L'Esprit Saint est ton GPS, est ton navigateur, est Jésus-Christ. Et quand on a accepté tout ça, on se trouve avec de la légèreté et de la joie en soi. Moi, le jour où j'ai ressenti cet appel, si vous saviez comme j'ai été heureuse, parce que ça faisait des années auparavant que le bon Dieu m'appelait, mais comme j'avais d'autres tâches à remplir vis-à-vis d'une de nos nièces, donc j'ai été prise, ben, c'est le cas de dire, entre Jésus puis ma nièce. Et comme elle était petite, je me suis dit, faut que tu remplisses ta mission, ben, comme si tu étais une maman. Et quand je suis arrivée à Champagnole, alors là, quel bonheur! Ça s'est passé un vendredi matin où là j'ai dit, faut plus que je fasse attendre le Seigneur. Il est temps que je parte à ma cure de paroisse et que je leur dise mon désir que je ressens. Et alors là, ma vie, elle a tout changé. Même si en 2000, j'ai appris que j'avais ma maladie sournoise en moi. Et j'aime autant vous dire que je suis pas une craque quand même, mais j'en ai pleuré, oui. Mais je me suis dit, après tout, comme le bon Dieu voudra, son destin, nul ne le connaît.
Merci.
Alors moi, ma vie est de rendre grâce tous les jours qu'il me donne et que je passe avec lui. Et même si je peux rien faire, je me dis, si, tu peux encore prier pour tant d'autres, pour des âmes qui sont ben, loin de Jésus, pour ceux qui sont malades et qui n'oseraient pas s'engager. Mais si, parce que même parmi la maladie, nous avons des choses à remplir.
Marianne,
nous avons des choses à dire.
Merci pour votre témoignage. Merci pour votre témoignage. Je suis obligé de vous laisser, Marianne, parce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir. En tout cas, nous vous remercions d'être intervenu en direct sur l'antenne de RCF et j'aimerais faire réagir mes invités à votre témoignage et notamment sur l'image que vous venez d'employer, l'image de la barque. Est-ce que ça vous parle les uns et les autres, cette image-là? Est-ce que vous l'emploieriez concernant votre propre vocation de laïque consacré? Mylène Ménard.
Ben, je pense que Pardon. Je pense que chaque c'est la vie de chaque baptisé, en fait. Quelquefois, Jésus dort sur le coussin, comme hier. Quelquefois, il marche sur la mer et il lui dit « tais-toi ». Voilà. Donc, c'est la vie du chrétien, cette barque dans laquelle... en fait, il faut croire que Jésus est avec nous, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la barque, même quand il dort, il est là et c'est cela qui nous guide, quoi, qui nous aide. Et dans notre vie consacrée, on doit être les témoins, justement, ceux qui disent, eh ben, n'ayez pas peur, il est là, il dort peut-être, mais
oui, mais
il
alors,
est là.
Quand il y a la tempête, on peut dire comme l'apôtre, ça ne te fait rien, Seigneur, que nous périssions, Jérôme Cuquel.
Je crois que ça lui fait quelque chose, mais je pense qu'effectivement, c'est aussi, dans ces épreuves de la vie, moi je me rappelle que quand j'ai commencé mon travail à Toulouse, je travaillais dans l'aéronautique et donc mon assistante qui était là venait de perdre à 55 ans son ex-mari et elle était très très touchée et elle me dit voilà la première chose qu'elle me dit mais que personne vienne me parler d'un Dieu qui vient qui nous aime qui est là parce que vraiment c'est la chose la plus terrible que on puisse vivre, moi, voilà, même si c'était mon ex-mari, j'aimerais jamais quelqu'un comme j'ai aimé cette personne-là, qui est le père de mes enfants, tout ça. Voilà, donc elle annonçait la couleur, clairement. Voilà, et puis effectivement, ben, dans cette souffrance-là, il n'y avait pas de mots à dire. Il y avait, voilà, une présence, être là, accompagner. Voilà, jusqu'au jour où effectivement, ben, elle est venue aussi mettre les pieds dans ma communauté, découvrir, voilà, toute une dimension de ma vie qu'elle a découvert petit à petit. Et puis aujourd'hui, son nouveau compagnon a un cancer et c'est elle qui m'appelle régulièrement pour me dire, écoute, vraiment, il faut que tu pries pour moi, pour lui, pour, voilà, pour toute notre famille. Donc, je veux dire, c'est un cheminement, voilà, les crises, les tempêtes, je crois que c'est des choses que Dieu met sur notre route et je crois qu'à côté de nous, il met aussi les personnes, voilà, qui sont là pour... Voilà, pour nous aider, pour nous accompagner, pour retrouver la paix. Voilà, et à travers nous, c'est Dieu lui-même qui va être présent.
Père Gilles-François, est-ce que les laïcs consacrés, finalement, dans leur vocation spécifique et le fait qu'ils soient célibataires, en tout cas qu'ils aient consacré leur célibat, ça leur donne une acuité plus grande par rapport aux souffrances et aux difficultés du monde?
On a entendu ce témoignage bouleversant de cette dame de Champagnole. On sent un très puissant désir de Dieu, quoi. Elle est saisie par Dieu, en même temps Dieu la désire, la prend, quoi. C'était très fort ce qu'elle nous a dit, cette dame, et moi j'entends ça, ça a résonné avec beaucoup de témoignages que j'entends actuellement de femmes qui veulent se consacrer à Dieu. C'est cette puissance là qui fait que qu'on va vers le déraisonnable, quoi. Le célibat aujourd'hui, oh, la pauvreté aujourd'hui, bah quoi, c'est quoi ça, et l'obéissance aujourd'hui, rien de cela n'est raisonnable. Et ces femmes sont embarquées dans cette trilogie des conseils évangéliques, mais qui tient par quoi ? Parce que c'est un désir d'être à Dieu, quoi, d'être pris par lui, et en même temps un désir d'être au monde. Bah oui, effectivement, j'entends bien c'est ce que vient de nous dire Jérôme aussi, quoi. Hein, ce témoignage, Jérôme est connu comme chrétien. Bah cette femme, du coup, lui dit sa colère, sa révolte. En même temps, il y a un chemin qui se fait parce que publiquement, on est chrétien, quoi. Mmh. Évidemment, c'est pas réservé aux consacrés. Ah, c'est clair. Seulement, les consacrés deviennent un genre de poil à gratter de l'Église, quoi.
Alors, poil à gratter de l'Église, et pour revenir justement sur l'accueil de la souffrance et des difficultés que peuvent vivre nos contemporains et qu'on peut vivre aussi nous-mêmes, Mylène Ménard, est-ce que le célibat consacré, ça donne davantage, j'allais dire, d'espace pour accueillir toutes ces souffrances dont on peut être témoin?
Peut-être parce que avec le cœur à cœur qu'on essaye de vivre avec le Christ tous les jours, peut-être qu'avec ce cœur à cœur, notre cœur devient semblable au sien, au cœur du Christ, et donc nous sommes plus attentifs et nous pouvons avoir la compassion de Jésus pour les personnes qu'il met avec nous, parce que quelquefois, vous savez. On n'a pas besoin de parler, en fait. Moi, je vois en tant qu'infirmière, quelquefois, avec les plus jeunes, qui me disaient, mais je sais pas quoi lui dire, je sais pas quoi. J'ai dit, mais il n'y a rien à dire. Tu sais, tu le regardes, tu lui tiens la main, tu lui souris. Voilà, donc en fait, une expérience de comme Marie au pied de la croix, qui est là et qui regarde Jésus et qui ne dit rien, en fait.
J'aimerais évoquer pendant quelques instants, et il y a une pause dans quelques minutes, mais on va commencer d'évoquer cette thématique-là, c'est la spiritualité des communautés, des mouvements que vous représentez. Pour revenir sur celle des Focolari, Jérôme Cuquel, quelles furent les intuitions de la fondatrice en fondant ce mouvement, et comment son charisme s'est précisé au fur et à mesure de ces années?
Alors, son inspiration première, elle est arrivée quand, à l'âge de 19 ans, avec l'Action catholique, elle a fait une retraite, donc elle qui habitait dans le nord de l'Italie, c'était encore pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et elle est allée à Lorette, qui est un centre de pèlerinage au centre de l'Italie, où la tradition veut que les croisés ont ramené la maison de Nazareth, et donc il y a une grande basilique qui a été construite autour. Et elle, qui avait 19 ans, voilà, fait une expérience du divin comme jamais, en étant proche de cette petite maisonnée. Voilà, parce qu'elle s'imagine la vie de Marie, de Joseph, de Jésus, enfant de cette famille de Nazareth, qui était le symbole d'une vie laïque. Non, personne dans le village ne les trouvait bizarres ou c'était une famille parmi d'autres.
Le fils du charpentier.
Le fils du charpentier. Et dans cette simplicité, dans cette normalité, elle voit aussi à la fois toute la dimension plus divine qui puisse exister. Et donc, elle retourne chez elle vraiment avec cette flamme-là, et son père spirituel lui demande, mais ça y est, tu as compris ta vocation ? Oui, j'ai compris. Alors, ce sera quoi ? Tu vas aller dans un monastère loin du monde ? Elle dit, non, c'est pas ça. Mais alors, tu vas rester vierge, seule au milieu du monde ? Elle dit, non, parce que voilà, je sens cet attrait aussi à la vie communautaire. Mais alors, tu vas te marier, rester dans le monde comme ça ? Elle dit, non, c'est encore autre chose. Mmh. Et donc, elle sent que Dieu l'appelle à autre chose que les propositions que l'Église de ce temps-là lui est fait. Et puis, c'est seulement 10 ans après, à cause de la guerre, que naîtra ce premier Focolare, ce premier foyer, à la fois de personnes célibataires, consacrées, et à la fois de personnes mariées, qui décident de les rejoindre, de rejoindre cette vie, parce qu'elles sentent que c'est une vie qui est à l'intérieur du monde. Elles sont, elles, mariées, elles ont leur vie de famille, et en même temps, c'est là qu'elles peuvent puiser cette vie de Dieu. Et donc, pour elles se rendre compte que c'est le ciel qui rencontre la terre, et qu'effectivement, dans cette vie-là, il y a la clé de la sainteté pour les foules.
Il y aurait une analogie à faire avec l'itinéraire de Madeleine Delbrel. On le fera juste après cette nouvelle pause. On parlera aussi des intuitions propres de la communauté de l'Emmanuel, notamment de ce triptyque compassion, évangélisation, adoration. Merci. On en parlera juste après cette nouvelle pause. Restez avec nous, c'est RCF que vous écoutez.
Le temps de le dire revient dans un instant.
RCF, Bénédicte Draillard.
Le livre biblique de la Genèse est fascinant. Comment comprendre en profondeur les récits de la création ? Dans la saga de la Bible, le pasteur Nicole Fabre nous relate avec finesse ses mythes fondateurs. Je vous donne rendez-vous ce lundi à 13h30 pour évoquer le paradis terrestre.
Parce que l'avenir se joue aujourd'hui, RCF investit dans le mode de diffusion du futur appelé DAB+, ou radio numérique terrestre. Que vous soyez à Nice, Lyon, Lille ou Strasbourg, vous pouvez déjà nous écouter en DAB+, avec un poste de radio compatible. Pour commander dès maintenant votre poste DAB+, appelez le service auditeur au 04 72 38 62 10.
Hommes ou femmes, ils ont décidé un jour de donner leur vie à Dieu tout en restant actifs dans la société. Ils ou elles sont laïcs consacrés. C'est le cas de Mylène Ménard de la communauté de l'Emmanuel, Jérôme Cuquel du mouvement des Focolari. Quant au père Gilles François, il accompagne un groupe d'hommes et de femmes qui réfléchissent à une vie consacrée dans le sillage de Madeleine Delbrel. Père Gilles François, on a entendu il y a quelques instants Jérôme Cuquel nous parler de la fondatrice du mouvement des Focolari, Chiara Lubick. Vous feriez une analogie avec l'itinéraire de Madeleine Delbrel ?
Oui, il y a des similitudes. Madeleine étant un tout petit peu plus âgée, mais oui. Et chez Madeleine, il y a, vous savez, nous autres gens de la rue croyons de toutes nos forces que cette rue, ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Voilà. Donc elle le dit pour nous autres gens des rues. Évidemment, elle le dit aussi pour le petit groupe de femmes qu'elles étaient. À ce moment-là, elles étaient 7 ou 8, pas plus. Hein. Mais ça résonne doublement, quoi. Hein, cette rue est pour nous le lieu de notre sainteté. Et même, elle ajoute que si quelque chose nous y manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. C'est-à-dire, Dieu pourvoit la mission dans le monde. Voilà, il met ce qu'il faut.
Ça veut dire que Dieu nous précède comme le Christ précédait ses disciples en Galilée. Il nous précède
oui,
dans le monde.
Il nous précède dans le monde et les équipements, nous les trouvons au fur et à mesure, en quelque sorte. Quoi. On sent bien chez ces femmes cette capacité de rebondir, d'aller. Hein. Alors, à la différence que Madeleine, c'est resté un tout petit groupe. On pourrait s'interroger. C'est une puissance d'écriture, c'est une puissance de... Les gens connaissent des phrases, je vous en ai cité une par cœur, mais beaucoup de gens connaissent, quoi, et ça rebondit chez eux. Me semble-t-il, il y a chez elle, dans sa spiritualité, elle reconnaît au fond deux appels. L'appel à « rentre chez toi », et là, va dire les merveilles de Dieu autour de toi.
Donc ça renvoie à l'évangile directement,
oui,
là.
Oui, c'est cet homme qui est guéri par un possédé, qui est guéri par Jésus. Et Jésus, le possédé voudrait suivre Jésus, être avec Jésus. Puis il lui dit, non, rentre chez toi. Toi, ta vocation, c'est d'être chez toi et de vivre l'évangile. Enfin, puis d'annoncer les merveilles de Dieu chez toi. Puis à d'autres, il dit, suis-moi. Hein? Et ceux auxquels il dit, suis-moi, sont moins nombreux que ceux auxquels il dit, rentre chez toi. Voilà.
Et comment, Mylène Ménard, pour ce qui vous concerne, vous concevez cette mission, cette vocation au cœur du monde? Vous l'avez dit, vous avez exercé la profession d'infirmière avant de prendre la responsabilité de la vie consacrée féminine au sein de la communauté de l'Emmanuel en France. Mais donnez-nous peut-être des exemples, des anecdotes de la manière dont vous avez pu déployer votre vocation tout en ayant une activité professionnelle intense, j'imagine.
Oui, tout à fait. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que vraiment, dans ma vie d'étudiante, quand j'ai commencé mes études, quand je parlais, alors je le dis pas tout de suite parce que voilà, mais quand on commence à se lier d'amitié avec certaines personnes et que je leur dis, mais tu sais, moi, parce que la question vient, t'as un petit ami, mais non. Voilà, je suis célibataire et je le resterai pour le Seigneur. Ah bon, mais ça te manque pas. Voilà. Donc en fait, c'est des petites, la conversation se fait au fur et à mesure. C'est pas, je ne balance pas dès le départ que je suis consacrée, sauf si on me le demande d'emblée. Mais voilà. Et en fait, j'ai remarqué que je me rappelle d'une collègue qui était très hostile en fait envers moi, qui voilà, je pense que comme Dieu n'existait pas pour elle, donc elle comprenait pas trop ce que je vivais. Et un jour, elle nous a annoncé son mariage, et en disant, je ne me marie pas à l'église, et en me regardant bien pour dire, je ne me marierai pas à l'église. Puis en fait, moi, je lui ai dit, mais écoute, tu as raison, tu ne crois pas en Dieu, le mariage à l'église n'a pas de sens pour toi, c'est honnête, tu as raison de ne pas te marier à l'église. Et parce que je l'ai accueillie comme elle est. J'allais pas lui dire c'est un péché grave ou je sais pas quoi, enfin n'importe quoi. Non, je lui ai dit la vérité, ça n'a pas de sens pour toi, ne le fais pas. Et à partir de ce jour, notre relation a changé en fait. Elle a commencé, quand on était le dimanche ensemble et le dimanche un petit peu plus calme, et ben elle a commencé à me poser des questions sur ce que je vivais. Pourquoi j'avais choisi cette forme de vie. Voilà, j'ai pas serré pas votre question, mais ça c'est pas en une fois quoi. C'est dans le monde en fait, le levain dans la pâte comme vous disiez.
Alors est-ce qu'il s'agit de transmettre l'évangile, Jérôme Cuquel, dans le cadre du milieu professionnel, ou est-ce qu'il s'agit de révéler, comme on l'a dit il y a quelques minutes, c'est le père Gilles François, je crois, qui faisait cette remarque de révéler ce qui déjà en relève dans voilà les parcours des uns et des autres, même des personnes qui peuvent se dire non croyantes.
Oui, je pense que c'est un questionnement qui arrive, un supplémentaire dans un parcours que Dieu leur a déjà fait faire. Et donc effectivement, je pense qu'on est un de ces intervenants que Dieu utilise aussi. Effectivement, moi je me rappelle aussi d'un collègue qui effectivement à un certain moment avait vu une petite croix qui était sortie de mon col. Il me dit, mais voilà, j'espère que c'est pas un signe ostentatoire. Je me dis, mais pourquoi une agression comme ça, alors que vraiment injustifiée. Et puis effectivement, petit à petit, voilà, il y a eu les occasions de discuter un peu plus profondément aussi sur la vie, de venir aussi à la maison, de voir aussi. Je trouve que c'est toujours intéressant d'inviter les gens dans nos communautés, de voir que c'est pas quelque chose de bizarre, non ? Que c'est voilà une vie de famille simple, voilà faite de nos diversités, des gens voilà qui font pas le même métier, qui viennent de différents pays, qui ont différents attraits, goûts, et voilà. Et lui, au fur et à mesure aussi, m'a dit, mais tu sais, moi finalement, ma copine, elle voudrait qu'on se marie à l'église. Je vais devoir aller faire la préparation du mariage, voilà. Et donc, il se trouvait que c'était un prêtre que je connaissais, qui venait régulièrement au Focolar. Donc, on a pu parler de ce prêtre-là, qu'il estimait, voilà. Et finalement, donc, il a fait ce mariage à l'église. Et voilà, quand on se voit. Il reste voilà ce parcours qu'on a fait ensemble avec des tensions, et puis au fur et à mesure aussi voilà Dieu a travaillé, voilà, et puis il y avait voilà une des pierres, c'était cette rencontre qui l'a aidé à aller un peu plus loin.
Finalement, un laïc consacré, une laïque consacrée, Père Gilles François, c'est un témoin, un rouage, j'allais dire, dans ce mécanisme de la mission, un rouage parfois humble, discret.
Oui, et qui est branché jusqu'au cœur de l'Église. Je reprends une expression de Madeleine, hein, c'est-à-dire on est là, bien sûr, c'est toi qui es là, mais en même temps ta vie est reliée au Christ, et au Christ aujourd'hui qu'est l'Église, et non pas comme un élément un peu au bord, puisque pour aller aux périphéries, il faudrait soi-même être un genre de périphérique. Non, on est au cœur de l'Église.
Ce ne sont pas des électrons libres, les laïcs consacrés.
Non. Au contraire, ça, je le ressens très très vivement parmi ces jeunes femmes candidates actuelles, quoi. Je vois à quel point elles sont complètement les unes et les autres avec des expériences très diverses. À la profondément engagée au cœur de l'Église, et puis en même temps, bonnes professionnelles, présentes dans leur quartier. Elles ont eu un appartement comme tout le monde, une vie comme tout le monde, voilà, et avec ces questions aussi de regroupement, comme les autres témoins là, l'ont évoqué, de tâcher de se mettre à plusieurs, parce que le signe est plus fort quand on est plusieurs.
Qu'est-ce que vous pourriez ajouter justement sur ce lien à l'Église, sur le lien à la communauté comme fondamental de votre vocation, Jérôme Cuquel?
Je crois qu'effectivement, plus on veut aller loin, et plus il faut que le fil soit solide. Non, si on veut aller
c'est très beau, ça,
en haute mer, voilà, il faut vraiment que ce fil qui nous relie à l'essentiel, il soit fort. Moi, je crois que c'est ça qui nous permet d'aller vers des frontières toujours qui nous demandent beaucoup. En ce moment, on fait une très belle expérience dans notre communauté à Créteil, parce qu'on accueille à la fois des migrants et puis des gens de la rue. Et un de ses amis, voilà, que j'ai rencontré un jour sur le banc, je lui ai dit, écoute, si tu veux, ce soir, tu peux venir manger à la maison. Et il me disait, mais toi, tu es marié, tu as des enfants? Je lui ai dit, non, je ne suis pas marié, non, je n'ai pas d'enfants, et pourtant, j'ai une grande famille. Il dit, ah bon, mais comment c'est possible? Je lui ai dit, écoute, ce soir, viens, tu verras. Et donc, il est venu manger, ça faisait 2 ans qu'il dort dans la rue. Il est passé par la Libye, il a été vendu 2 fois comme esclave, il a été... donc vécu des choses très dures, très... Et il est venu manger, voilà, ce soir-là, il y avait aussi le prêtre de la paroisse d'à côté, il y avait 2 jeunes Brésiliens qui étaient là de passage. Il a mangé avec nous, il s'est assis sur le fauteuil, il m'a appelé, il m'a dit, mais tu sais, je vois là, la famille. Moi, j'ai compris, je vois la famille. Et pour moi, ça m'a profondément ému, parce que je me suis dit, mais voilà, si les gens qui ont vécu ce qu'ils ont vécu sont capables de sentir profondément, voilà, une présence de Dieu, une vie de famille entre nous. Voilà, du coup, on peut vraiment ouvrir nos portes à tous.
Mylène Ménard, sur cette dimension familiale du lien ecclésial, qu'est-ce que vous pourriez dire?
Moi, je dirais effectivement, comme Jérôme, en fait, d'être tous ensemble, prêtres, laïcs et consacrés, c'est évangélisateur. Voyez comme ils s'aiment, et c'est ça qui permet la mission, en fait. Et à partir de ce moment-là, les personnes se disent, mais en face, il se passe quelque chose. Et en fait, c'est l'Église. L'Église, elle est composée de ces différentes réalités. Et c'est comme ça qu'on annonce le Christ.
Père Gilles François.
Avec une inventivité que provoque ce mot famille, quoi. Parce que nous, on a nos familles de sang, mais là, La famille, c'est fraternel, familial, communautaire. Si je repense au terme employé par Madeleine, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup le mot famille. Et chez elle, au fond, c'est voilà, ton prochain, c'est celui-là, et ben tu le traites comme ton, c'est ton frère. Quoi.
Donc, on est frères et sœurs parce que on a le même père.
Le même père du ciel, et c'est une notion extrêmement inventive. Et pour cause, quoi, puisque le cadre va être sans cesse à se refaire. Voici ceux de ma famille maintenant. Voilà. Il faudra le faire, le cadre avec eux.
Alors j'aimerais lire deux témoignages d'auditeurs, d'auditrices plus exactement. Le message de... Alors attendez, je ne vois pas. C'est Annick, il me semble. Depuis que j'ai prononcé mes vœux en 2012, je m'épanouis. Et alors attendez, non, ce n'est pas Annick, c'est Claudine, pardon. Je suis laïque consacrée dans une fraternité franciscaine. Après la vocation du mariage, je suis restée veuve à 39 ans pour faire grandir 3 enfants sans père. Je me suis sentie appelée à cette vie consacrée en plein monde, tout en restant au milieu de ma famille et de mes enfants. Depuis que j'ai prononcé mes vœux en 2012, je m'épanouis et dans la discrétion du quotidien, être témoin de la tendresse de Dieu pour tous, tendresse de Marie qui intercède auprès de son fils pour me relever et faire offrande de ma vie broyée par le deuil. Et puis ce message d'Annick qui écoute l'émission sur le laïc à consacrer en ce moment et qui est très intéressée notamment de la dimension de la spiritualité de Madeleine Delbrel. Après une longue route dans une congrégation religieuse apostolique, j'ai choisi de vivre dans un quartier populaire. J'ai demandé à l'évêque de reconnaître la consécration que je voulais continuer à vivre, ce qui s'est réalisé il y a 8 ans par une lettre de reconnaissance. Je vis actuellement dans l'esprit de Madeleine Delbrel, dont j'ai lu beaucoup d'œuvres. Je viens d'écrire un récit intitulé « La spiritualité de la vie ordinaire ». J'avais l'intention d'écrire au père Gilles François. Je vais peut-être me décider. Je cherche à faire partie d'un groupe qui réfléchirait à la spiritualité de Madeleine en lien avec la vie ou en constituer un. L'émission de ce matin me stimule. Est-ce un signe ? Et puis elle ajoute « J'ai beaucoup lu le père Pitot et le père Gilles François sur la spiritualité de Madeleine Delbrel. » Merci à eux.
J'attends votre courrier alors avec joie.
Voilà, allez, on se retrouve dans 2 minutes, une nouvelle pause dans cette émission. On se retrouve avec Mylène Ménard, avec le père Gilles François et avec Jérôme Cuquel, le laïc à consacrer, une vocation prophétique pour l'Église et pour le monde. N'hésitez pas à nous appeler 04 72 38 20 23. Quelle grâce incomparable, c'était Grégory Turpin, extrait de son nouvel album En son nom.
Votre rendez-vous d'actualité du matin, c'est le temps de le dire sur RCF.
Dans la dynamique de la journée mondiale de la vie consacrée, nous tentons de comprendre le sens de la vocation de ces hommes et femmes qui, au cœur du monde, décident un jour de vivre l'évangile par le don total de la vie dans le célibat de leur vie. Pour en parler, le père Gilles François du diocèse de Créteil, accompagnateur d'un groupe d'hommes et de femmes qui discernent une vie consacrée dans l'esprit de Madeleine Delbrel. Avec nous également Mylène Ménard, laïque consacrée responsable pour la France de la vie consacrée féminine au sein de la communauté de l'Emmanuel. Et Jérôme Cuquel, engagé comme laïque consacré au sein du mouvement des Focolaris. Alors c'est vrai que ce qui fait la spécificité de la vie consacrée, c'est le célibat. Comment le célibat peut-il être encore un signe prophétique aujourd'hui, Jérôme Cuquel? C'est pas sans poser question.
Oui, parce que finalement, et de façon un peu contradictoire, cette chose du célibat, elle est tendance, mais souvent pour des mauvaises raisons. Actuellement aussi, parce qu'effectivement, il y a une peur de s'engager, une peur d'être blessé, une peur, pour rester libre. On sent que, beaucoup de jeunes font ce choix du célibat. Voilà, et c'est pas les raisons pour lesquelles nous sommes engagés. Et je crois que du coup, moi, je préfère parler du sens de la virginité. Parce qu'il me semble qu'effectivement, dans cette virginité, c'est pas tellement, une propriété physique à préserver. Mais c'est un état d'esprit à vivre. C'est la manière dans laquelle je m'approche des autres. Et sur ce point-là, et c'est ça que je trouve exceptionnel, c'est que les mariés qui font partie de nos communautés ont cette même dimension à vivre avec leurs conjoints, avec leurs enfants. Cette virginité qui fait qu'effectivement, cette virginité de Dieu, qui fait qu'on est tout pour la personne qui est devant nous, en essayant d'éliminer tout ce qui est cet égoïsme, cette recherche de soi, cette recherche du plaisir, et donc lutter contre cette érotisation qu'il y a tout autour de nous pour vivre cette virginité, et c'est ça qui est la vraie conquête.
Père Gilles François, comment Madeleine Delbrel comprenait cette vocation si particulière du célibat dans sa vie? Comment elle en parlait?
J'ai trouvé une petite phrase. Un petit paragraphe dans la charte qu'elles ont eue à partir de 1958, qui était mûrie par leur expérience. Elle dit qu'il y a une part de sacrifice. Il est un sacrifice, le célibat, et un sacrifice joyeux, lucide sur la solitude naturelle qui constitue. Mais nous voyons en lui, alors, elle dit, une attente de Dieu, un accueil de sa présence, une brèche par laquelle un surcroît de charité peut se déverser dans le monde. Et en préparant ce matin, je me suis levé de bonne heure pour relire 2-3 bonnes pages. J'ai été saisi par ça, Le célibat vu comme une attente de Dieu, un accueil de sa présence et aussi une brèche par laquelle un surcroît de charité peut se déverser dans le monde. Une brèche parce que le célibat, c'est quand même un manque. Pour ça qu'elle dit... Elle n'évite pas le mot sacrifice, elle le dit tel quel. Sacrifice au sens que Jésus a donné sa vie pour nous, et que nous aussi, nous sommes appelés à donner cette puissance de vie. Et voilà, c'est un peu cela. Juste une phrase pour résumer.
Et Mylène Ménard, comment vous entendez ce qui vient d'être lu, justement sur cette dimension d'espace pour accueillir aussi les autres?
Tout à fait. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ouvre notre cœur, cette relation, cette prière quotidienne que nous vivons, nous ouvre le cœur, et parce que ce célibat n'est pas choisi pour lui-même, il est choisi en réponse à l'appel de Dieu, et c'est un appel d'amour, et c'est une réponse d'amour. Et donc c'est ça, cette brèche qui permet, où la charité peut se déverser dans le monde.
Donc il n'y aurait pas de contradiction entre célibat et fécondité, Jérôme Cuquel?
Non, il doit être fécond. Sinon, effectivement, il est stérile. C'est vraiment la chose, même toute la Bible parle de la fécondité de Dieu. Et je crois qu'effectivement, la vraie valeur, elle est là. Elle est dans l'amour qu'on reçoit et qu'on peut donner. Je veux dire, c'est cet amour-là qui permet effectivement de porter un fruit qui va au-delà. Moi, je trouve que c'est toujours quelle est la dimension de ta famille. Il porte des fruits aux dimensions de la famille. Ça peut être avec une femme, avec 2-3 enfants, mais il peut être aussi une famille qui a les dimensions du monde. Et je crois que Jésus nous ouvre, voilà, le cœur de Jésus, il est ouvert à ces dimensions-là.
Et en même temps, ce qui fait la difficulté peut-être et la beauté du célibat, c'est cette dimension du sacrifice. C'est vrai que Madeleine Delbrel n'a pas honte d'employer ce terme. Aujourd'hui, c'est difficile de l'entendre, ce mot, sacrifice.
La croix est difficile. Faut pas raconter d'histoire. Il y a le moment, tout le monde cale devant la croix, il n'y a que Jésus qui le fait, hein.
Mais pourquoi aller vers la croix, j'allais dire? Parce que finalement, en choisissant le célibat...
Mais parce que la croix va vers la résurrection. Et que quelque part, on a appris ça à un moment donné, que bah, donner sa vie, ça va vers la résurrection. Mais oui, mais il y a des croix. Bah oui. Et c'est un apprentissage de notre vie. Hein, de nous apprenons que, bah oui, il y a des moments où il faut accepter de prendre sa croix. Et c'est pas du tout mortifère, au contraire, ça nous mène vers la résurrection. Alors, on sait pas trop comment, parce que c'est lui qui fait le passage, hein.
Mylène Ménard.
Moi, je voulais rajouter juste que, en fait, dans la communauté, nous avons par exemple des célibataires non consacrés. Donc, ils n'ont pas choisi cette forme de vie et qui pourtant vivent le célibat pour suivre le Christ. Donc, évidemment, c'est un sacrifice encore plus grand pour eux, en fait, j'allais dire. Et donc, moi, je l'ai choisi parce que j'ai entendu cet appel et que j'y réponds. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais j'ai une... Et cet amour, en fait, me donne la joie. Et donc, en fait, la croix, elle fait partie de notre vie. On va pas ressusciter si on passe pas par la croix. Hein,
enfin, mais par rapport aux laïcs non consacrés dont vous parliez, ce sont des laïcs qui sont en attente d'une vocation?
Par exemple, oui. Certains après, quand ils ont 60 ou 80 ans, voilà, mais effectivement, ils attendent. Ce sont des laïcs qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur.
Ça rejoint une question de Marie, hein, de l'Inde. Comment se fait-il que beaucoup de laïcs donnent beaucoup de temps à l'Église sans être consacrés? Donc ça va au-delà des célibataires non consacrés. Mais effectivement, on rejoint la communion des états de vie.
Et puis en fait, parce que c'est la réponse à un appel. Pourquoi le Seigneur m'a appelé moi et pas ma voisine? Je n'en sais rien. Mais moi, il m'a appelé et mon devoir, c'est de répondre en fait. Et je réponds avec joie. Voilà.
Jérôme Cuquel.
Mais je crois que la dimension de sacrifice, elle existe quelle que soit la vocation. Je crois la croix est différente, mais elle y est. Ça fait partie de notre chemin. Après, effectivement, moi je crois que on peut pas dissocier, la souffrance de toute la joie. Notre cœur, il est creusé par les deux choses, quoi. À la fois par la souffrance et par cette plénitude que Dieu nous donne. Voilà, quand on se met à sa suite. Moi, je crois que c'est ces deux aspects-là qui comblent une vie.
Alors, je me permets de reformuler la question que je vous posais. De quelle manière le célibat, le charisme du célibat peut-il être encore prophétique? Peut-il encore faire signe aujourd'hui dans une société qui ne semble pas mettre le célibat en haut de sa hiérarchie des valeurs, Père Gilles François? C'est sûr qu'il ne faut pas forcément se modeler sur l'esprit du monde, mais est-ce qu'il ne faudrait pas rendre ce charisme plus lisible?
Oui, c'est vrai. Il est là comme quelque chose de contradictoire ou d'insolite ou de suspect. C'est pas le signe le plus parlant, hein. Mais c'est un signe puissant parce que quand les gens commencent à nous connaître, notre vie ne s'explique que par Dieu. Ouais. Ne s'explique par aucun amour conjugal ni aucun amour paternel ou maternel vis-à-vis de nos enfants. Notre vie ne s'explique que n'a de sens que par Dieu. Ouais. Alors si Dieu n'existe pas, notre vie est absurde. Et on est donc un signe de contradiction. Ce n'est pas un signe très facile. Hein.
On retrouve un mot de Madeleine Delbrel lors de sa conversion.
Oui.
Avant sa conversion.
Oui, avant, oui.
Quelle était
absurde,
sa phrase
quoi, enfin...
Si Dieu n'existe pas, enfin, je ne sais plus ce qu'elle disait exactement, mais
Dieu est mort, vive la mort. Voilà. Et donc pour beaucoup de gens, ils voient un Jérôme là, qui est assis à côté de moi, puis alors il m'explique, sa vie, c'est Dieu. Ah, mais Dieu n'existe pas. Alors.
Donc c'est un choix qui est là pour montrer que Dieu peut être l'absolu, en tout cas que nous sommes tendus vers cette espérance-là, Jérôme Cuquel, pour terminer.
Oui, moi je dirais que effectivement, des fois on nous reproche, mais vous êtes alors ni religieux, ni vraiment laïque, ni vous êtes moitié-moitié. Non, et de façon provocatrice, je leur dis, mais Jésus, il n'était pas prêtre. Si. Jésus était un laïc consacré. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, à la suite de Jésus, effectivement, on peut vivre voilà, notre vie dans ce monde.
Tout à fait. Et puis je pense, nous témoignons au monde que Dieu seul suffit, comme dit Sainte Thérèse d'Avila. Mmh.
Un petit mot de Madeleine Delbrel, peut-être pour terminer, Père Gilles-François, vous n'avez pas une citation à nous transmettre?
Ah oui, quand elle dit que quand on a reçu la parole de Dieu, on n'a pas le droit de la garder pour soi. Et puis elle termine par dire, nous appartenons à ceux qui attendent la parole. Hein, c'est-à-dire, au fond, c'est cette dynamique, cette conscience des chrétiens. Et de fait, ce n'est pas réservé à ceux qui sont engagés dans la vie consacrée ou le célibat, etc. Mais les baptisés appartiennent à ceux qui attendent la parole de Dieu.
Merci beaucoup Père Gilles-François, merci également à vous Jérôme Cuquel et Mylène Ménard. C'est la fin de cette émission. Je remercie Pierre-Henri Paget qui l'a réalisée et Catherine au standard.